Paroles d'écriture, émission animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonsoir. Ce futur parmi nous, seconde émission, avec quatre invités, quatre regards complémentaires. Vous retrouverez cette émission le lundi 3 mars sur le site Agora et aussi sur le site suivant, écoutez bien, http://www.art-culture-education.com/, avec une note de synthèse et une documentation. Dans cette première partie, deux invités, François Redier et Virginie Remette. Ces deux entretiens ont été enregistrés cette semaine. François, astrophysicien, est connu pour ses travaux de tous les astronomes du monde. Il a beaucoup voyagé, après l'université de Nice, les États-Unis, le Pacifique, l'Amérique latine, etc. Il réside maintenant dans le Var. Son esprit curieux a conduit cet explorateur du ciel à s'interroger sur le devenir de l'humanité. Son livre, Thermodynamique de l'évolution, essai de thermobiosociologie, aux éditions Parole, est un livre rare, passionnant, parfois difficile à lire, mais quel bonheur cette lecture. L'auteur s'adresse aux générations actuelles et futures et les invite à une réflexion sur le devenir de l'humanité. Sa perspective est le temps de l'humanité. Écoutons-le. Bonjour François.
Oui, bonjour.
Je vous remercie de participer à cette émission et d'accepter cet entretien. Je vous ai présenté avant de vous avoir directement au téléphone. François, selon vous, quel futur est déjà présent parmi nous pour caractériser le monde à venir ?
Question difficile. Bon, le futur, bon, en principe, le futur, on ne peut pas connaître le futur. Mais bon, on peut quand même faire des estimations. Peut-être le meilleur modèle, c'est les prévisions météorologiques. C'est un bon exemple. Par des simulations, on peut arriver à prédire assez bien le temps qu'il va faire. Encore, ça dépend des endroits. Les endroits où c'est plus difficile que d'autres, mais. À prévoir le temps qu'il va faire au bout de quelques jours, mais bon, on se heurte au ce que les physiciens appellent le problème de la sensibilité aux conditions initiales. Très rapidement, il faut réactualiser les prévisions, etc. Alors, il y a un autre type de prévision du futur, par exemple, la climatologie fait des prévisions à long terme, mais c'est si on a. On connaît le processus. Donc, processus évolutif, si on connaît le processus évolutif, alors il obéit à des lois. Et si on connaît ces lois, on peut avoir une idée de ce qui va se passer, mais une idée très générale. On peut pas prédire du tout en détail ce qui va arriver. Alors, c'est un peu le point que vous posez. Est-ce qu'on peut faire des prédictions sur l'avenir de l'humanité? Alors c'est un problème effectivement qui m'a beaucoup préoccupé, c'est pour ça que j'ai écrit un livre là-dessus. L'idée étant, il y a effectivement l'approche du modèle numérique, et des exemples, des prévisions du Club de Rome, c'est un exemple de prévision numérique qui la région avait. Il y a surtout les économistes, il y a eu beaucoup de sceptiques sur l'idée qu'on peut faire des modèles économiques d'évolution de l'humanité. Je pense qu'on peut, à court terme, en les réactualisant régulièrement. Moi, mon approche a été plutôt essayer de comprendre les lois fondamentales de l'évolution. Et alors, peut-être pour vous raconter la genèse de mon livre, c'est que bon, j'ai commencé à m'intéresser à ces questions quand j'étais à la retraite, il y a une dizaine d'années, je me suis mis à la retraite, et j'ai commencé à réfléchir à l'évolution de l'humanité me préoccupait beaucoup, en fait, et des livres commençaient à apparaître, particulièrement mon directeur de thèse. Quand j'étais jeune, j'ai eu un directeur de thèse qui est assez connu, puisque c'est un des précurseurs de la recherche spatiale en France et en Europe, il s'appelle Jacques-Émile Blamont, a écrit un livre où il parle du siècle des menaces, pour parler du 21e siècle. Et c'est un livre extrêmement pessimiste. Et alors je me posais des questions, est-ce qu'il a raison, etc. Et alors, petit à petit, c'était à l'époque où il fallait voter pour la Constitution européenne, vous voyez. Alors on se posait des questions, et mon épouse et moi-même, Et puis on a pensé que c'était, enfin, on était contre cette constitution européenne qui était manifestement ultra-libérale. Bon. J'ai commencé à écrire un blog qui est toujours en ligne. Vous pouvez regarder et suivre l'évolution de ma pensée depuis cette époque-là. J'ai commencé à parler. Et comme j'ai vécu en Polynésie, à Hawaï, en fait, puisque en tant qu'astrophysicien, il y a beaucoup d'astrophysique, de télescopes à Hawaï et d'astronomie. Donc j'étais à l'Institut d'astronomie de l'Université d'Hawaï. Et bon, j'ai connu la Polynésie. J'ai parlé des effondrements de civilisation en Polynésie. Ça a été très bien décrit dans la littérature. Tout le monde connaît l'histoire de l'île de Pâques, mais il y en a beaucoup d'autres. Et bon, alors la question, c'est est-ce que la même chose peut se produire pour l'humanité à l'échelle de la planète? Alors bon, je me suis posé la question et j'ai commencé à écrire ce blog. Et au bout de 4, 5, 6 articles, rapidement, j'étais amené... étant hors physicien, à me rendre compte que ce qui comptait, c'était en fait l'énergie et la disponibilité de sources d'énergie. La vie, c'est on a besoin d'une source d'énergie. On a besoin de manger pour vivre. Et bon, maintenant, c'est plus seulement manger. L'énergie de nos jours, c'est le pétrole. Là, ça a été la houille, puis le pétrole, puis bon, etc. Et donc, de là, on est amené à la thermodynamique. Et je me suis rendu compte aussi, alors le problème, c'est que c'est des processus thermodynamiques hors équilibre qui sont très mal connus. Toute la thermodynamique classique a été développée à l'équilibre. Et c'est qu'à partir du milieu du XXe siècle, surtout avec Prigogine, on a commencé à s'intéresser au système thermodynamique hors équilibre. Et bon, alors je suis parti là-dessus et je me suis aperçu qu'on était en train de faire beaucoup de progrès sur la compréhension des processus thermodynamiques hors équilibre. Et en particulier, ce sont des physiciens qui s'intéressent à la biologie qui participent à ces progrès, qui ont fait avancer la thermodynamique hors équilibre. Parce que la vie, c'est un processus thermodynamique complètement hors équilibre. Donc c'est la physique très, très difficile, la physique de pointe, mais on fait beaucoup de progrès là-dessus, et très abstraite surtout, mais qui apprend beaucoup de choses, voilà, sur les vues. En particulier, il y a cette idée qui est de plus en plus répandue. Il y a un troisième principe de la thermodynamique qui s'applique au système hors équilibre, c'est ce qu'on appelle le théorème le principe de production maximale d'entropie. Alors c'est un peu difficile à expliquer comme ça en public, mais ça veut dire que l'univers évoluera, moi je suis en tant qu'astrophysicien, je m'intéresse à la cosmologie bien sûr, l'univers évoluerait de façon à maximiser la dissipation d'énergie, en termes simples. Et ça a des conséquences quand je vous dis comme ça, bon, l'univers évoluerait de façon à maximiser la dissipation d'énergie, ça vous dit pas grand chose, mais ça a des conséquences extraordinaires, c'est-à-dire qu'on peut même expliquer ainsi le développement de l'intelligence. Les structures dissipatives, comme on les appelait Prigogine, évolueraient de façon à devenir de plus en plus complexes, et pour dissiper de plus en plus d'énergie. Et pour ça, une structure dissipative, et un être vivant, c'est une structure dissipative, une société humaine, c'est une structure dissipative, elle importe de l'information de son environnement, et avec cette information, elle maximise la dissipation d'énergie. Donc ce processus de mémorisation d'informations adapté à l'environnement, on peut appeler ça l'intelligence finalement. Donc la vie a créé des plantes, puis des animaux, de l'homme. Donc il y a une évolution de l'intelligence. À ce moment, on voit l'humanité évoluer pour former une espèce on appelle ça la réseau neuronal d'individus en relation les uns avec les autres, qu'on peut appeler une espèce de cerveau global. L'humanité forme un cerveau global, c'est un réseau neuronal, donc c'est une intelligence globale qui sert à quoi? À maximiser la dissipation d'énergie. Alors c'est ça qui paraît, bon, c'est pas très peut-être bon pour je veux dire, ça un peu peu bizarre, que, mais ça serait ça le processus physique. L'intelligence, c'est évoluer de façon à maximiser la dissipation d'énergie. On connaît en gros comment ça marche maintenant. C'est un processus qui ça suit de ce qu'on appelle le processus de criticalité auto-organisée, c'est-à-dire c'est aussi entre l'ordre et le chaos. Et c'est ce qu'on voit pour l'évolution des sociétés humaines. Elles s'auto-organisent et elles dissipent l'énergie, mais en dissipant l'énergie, elles modifient l'environnement. Or, comme elles se sont adaptées à un certain environnement et qu'elles modifient cet environnement, elles ne sont plus adaptées, soudainement, elles s'effondrent. Et elles se cassent en petits morceaux, et les petits morceaux souvent se réunir différemment, se reconstruire pour former une structure plus grosse qui va à nouveau se casser, etc. Donc il y a cette oscillation continue. Alors en économie, c'est ce qu'on appelle les cycles économiques, où on voit... si vous, maintenant, vous répondez à la question de le futur immédiat, de ce 21e siècle qui fait un peu peur, je pense qu'effectivement, on arrive dans une phase d'évolution de l'humanité absolument extraordinaire et critique, où tout va s'effondrer et se reconstruire. Quelque chose d'équivalent au néolithique, l'humanité est passée par des phases très difficiles où l'humanité a épuisé les ressources, ça c'est ce qui s'est passé au néolithique, et les grands mammifères avaient disparu, il a fallu survivre, on a survécu, enfin, l'humanité a survécu grâce aux céréales, aux graines. Ben là c'est la même chose, on est en train d'épuiser nos réserves d'énergie, le pétrole, la houille, l'énergie nucléaire, c'est une catastrophe parce que ça fait évoluer complètement l'environnement sans... c'est l'évolution de l'environnement. Donc, il va y avoir on va assister à un effondrement général. Alors c'est là que des modèles numériques comme celui du Club de Rome vont tout à fait dans ce sens. Donc ils sont tout à fait plausibles. Prévoit que la population de l'humanité va continuer à croître, elle s'est mise à croître brusquement depuis 2 siècles à toute vitesse. C'est un événement extraordinaire parce que depuis le néolithique, elle évoluait lentement, puis d'un seul coup, en 2 siècles, elle s'est mise à évoluer à toute vitesse. Donc il y a quelque chose qui se passe et on est en train d'arriver au moment où tout va s'effondrer. Et tout va s'effondrer, je pense, au 21e siècle. Ça fallait les simulations numériques du Club de Rome disent que la population passera par un maximum en 2030 de l'ordre de 7 milliards d'individus. Puis après, elle va redécroître. Malheureusement, ça veut dire que pas mal de gens mourront de faim. Et bon, c'est un peu... Je veux pas être un oiseau de mauvaise augure, mais c'est vrai qu'on peut n'être que très pessimiste. Alors, dans mon livre, j'essaye de mettre un peu d'optimisme en ça. En parlant de ce qui va se passer après, le processus va repartir et un nouvel ordre va se reconstruire.
Je vous remercie beaucoup, François.
Je vous en prie.
Et à très bientôt. Merci.
Au plaisir, au revoir.
Deuxième invité, Virginie Remette, guide de haute montagne, botaniste, chercheur, écrivain, poète, humaniste. Sa perspective est le temps présent au cœur de la nature. Nous l'écoutons. Nous accueillons maintenant dans notre émission « Ce futur parmi nous » Virginie Remette, accompagnatrice en montagne, écrivain, poète, paysanne, cueilleuse de plantes aromatiques dans les Hautes-Alpes, exploratrice de la nature sans aucun doute et chercheur. Bonsoir Virginie.
Bonsoir Michel, bonsoir chers auditeurs.
Alors Virginie, je vais vous poser une question par rapport au contexte où vous êtes. Dans votre profession et dans le lieu où vous habitez, dans les Hautes-Alpes, maintenant depuis quelques années, comment percevez-vous ce futur parmi nous ?
Alors au milieu des humains et dans les Hautes-Alpes, alors en tant qu'accompagnatrice en montagne et botaniste, je sens déjà auprès du public une certaine sensibilité auprès de la nature, une certaine sensibilité et curiosité de savoir un petit peu comment la nature résonne en nous. Et effectivement, je ressens cette demande, une grosse demande, quand je fais mes sorties botaniques tout au long du printemps, de l'été et de l'automne. Donc, un foisonnement de questions par rapport à la nature, par rapport à la santé, par rapport au mode alimentaire, par rapport donc à tous ces nouveaux médias. Voilà, et donc un engouement certain par rapport à cette nature. Il y a vraiment un rapprochement envers la nature, envers les arbres, envers les animaux.
Alors ça, Virginie, c'est votre perception par rapport à une minorité de gens qui découvrent la montagne, découvrent la nature. En plus, alors, quelle est votre lecture, je dirais, peut-être plus pessimiste, au-delà des Hautes-Alpes, au-delà de la nature, voilà, de ce que vous percevez du monde?
Alors là, je vous ai répondu à votre question par rapport au milieu, dans le milieu dans lequel je vis, c'est-à-dire les Hautes-Alpes, qui est un milieu quand même assez protégé, en retrait des grands axes routiers, des grands axes ferroviaires, etc., etc. Par contre, en ville, par rapport, si vous voulez, à cette promiscuité, cette masse d'humains, d'ailleurs, qui se masse tout autant dans les pharmacies, qui se masse tout autant dans ces grandes surfaces, qui se masse, on le voit dans nos stations, où ils font la queue comme au télésiège, au téléski, comme ils font la queue avec leur taxi dans les grandes surfaces. Donc là, ça pose vraiment un problème du surnombre de la population. Et encore, ce qui fait que le surnombre, et encore le surnombre se pose des questions. Or, il n'en est rien à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le problème du surnombre, ce sont des personnes qui sont complètement formatées par des organismes, l'éducation nationale, ou les crèches, ou des centres aérés, où les enfants sont complètement formatés, où il n'y a plus du tout d'analyse critique, de réflexion, le développement de l'intuition, le développement de l'imaginaire, le développement de la création. Les enfants d'aujourd'hui sont totalement formatés. Alors, moi, je ne sais pas ce que ça va donner plus tard. Les enfants, à un moment donné ou à un autre, c'est sûr, ils seront en réaction. En réaction par rapport à la société, en réaction par rapport à leurs parents, et en réaction par rapport à tous ces organismes de formatage. Parce que ce sont des organismes de formatage où on tue l'enfant intérieur, l'enfant imaginaire n'existe plus, l'enfant créateur n'existe plus, et on les met, si vous voulez, dans des grandes voies, des autoroutes, et on ne leur propose plus tous ces itinéraires bis, qui sont des itinéraires de voies de création, de voies de nouvelles découvertes, pour ces enfants. Et c'est vrai que cet avenir-là est, à mon avis, assez sombre, puisque de toute façon, vous le voyez bien, à l'heure actuelle, nous avons de plus en plus de suicides d'enfants. À l'heure actuelle, nous avons des enfants de 7 ans qui se suicident. Vous entendez, des enfants de 7 ans qui se suicident, parce qu'en fait, cette société les tue. Et ces enfants n'ont plus d'avenir. Donc, ils n'ont plus, ils ont perdu la foi en l'existence. Ils ont perdu la foi aux adultes, parce que les adultes, qu'est-ce qu'ils leur donnent comme exemple?
Tout à fait.
Ils leur donnent, oui, je vous écoute.
Virginie, donc, du lieu où vous êtes, vous voyez des gens qui redécouvrent la nature, mais quand vous regardez à l'horizon la ville, les formatages, etc., que vous percevez, que vous ressentez, vous êtes inquiet, vous êtes troublé, et vous dites qu'il est grand temps, il est urgent de retrouver le sens, la création et la vie, et qu'il faut retrouver la nature.
Absolument, il est très 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 urgent. Regarde, je vais simplement vous expliquer aux auditeurs une toute petite chose. Moi, des anecdotes, j'en ai énormément, mais je vais vous en raconter une. Alors, je faisais une petite lecture de paysage, j'avais un groupe d'enfants, et on faisait une lecture de paysage, la montagne, l'herbe, les arbres, etc. Et à un moment donné, donc, je leur disais, à votre avis, qu'est-ce que peut faire pousser les paysans, là, dans la montagne? Alors, pour les aider, pour les guider un petit peu, ben, je leur disais, voilà, c'est quelque chose que vous mangez le matin avec votre lait ou avec votre jus de fruits. Et alors, ils cherchaient tous ces petits-enfants. C'était des enfants qui venaient de Paris, donc une grande ville. Et à un moment donné, un gamin me dit très spontanément, « Ah mais oui, des cornflakes oui, !» Le lien à la nature.
L'anecdote est très significative. Merci beaucoup, Virginie. Et nous aurons l'occasion de vous retrouver, je crois, prochainement dans une émission, puisque vous allez publier bientôt un livre qui va faire beaucoup de bruit. Mais ça sera l'objet d'une autre émission. Bonsoir, Virginie.
Bonsoir, Michel. Bonsoir, les auditeurs.
Nous nous retrouvons, chers auditeurs, dans 10 minutes après les informations. Parole d'écriture. Ce soir, ce futur parmi nous. Nous allons accueillir 2 autres personnes, François Lupu et Paul Charby. 2 autres regards sur ce futur. François est sinologue, ethnologue. Il vient de publier un ouvrage remarquable, L'équation, une vie d'une rive à l'autre, aux éditions Parole. Sa perspective est celle de l'ethnologue. Il met en particulier en valeur l'esprit de notre temps et la nécessité de ne pas confondre information et communication. Nous l'écoutons. Bonsoir François. Merci de participer à cette émission sur le futur. Alors, la question que je vais vous poser, François, c'est selon vous, comment concevez-vous, comment percevez-vous ce futur, à la fois dans ses éléments inquiétants et dans ses éléments porteurs d'avenir ?
Bon, on va commencer par les inquiétants, c'est le mieux. Moi, ce qui me frappe d'abord dans le présent et apparemment dans le futur, encore que, bon, on ne sait jamais, c'est le climat anxiogène qui règne dans notre société ou nos sociétés. Je veux dire par là que pratiquement, c'est un système de panique devant tout et n'importe quoi, qui est servi par ce que j'appellerais l'immédiateté, qui ne permet plus de prendre du calme et de la distance vis-à-vis des choses, vis-à-vis de soi-même. Et puis cette confusion redoutable, tragique pour moi, entre l'information et la communication. Je reprends là l'idée de Dominique Volton, et l'information et la communication, ce n'est pas la même chose. Alors, ça nous emmène à quoi ? Ça nous amène à perdre pratiquement tout sens critique, d'avoir le nez collé sur la vitre, de privilégier ce risque zéro qui fait que la moindre chose devient catastrophique. Je me souviens, il y a pas longtemps, il y a eu quelques personnes qui sont décédées parce qu'ils ont mangé je sais pas quoi, une viande qui était plus ou moins variée. Bon, c'est tragique, je dis pas le contraire, mais tous les médias ont parlé d'épidémie pour 4 ou 5 personnes, pour toute la France. On a parlé de l'épidémie, ça a fait couverture de tous les journaux. Je rappelle quand même que l'épidémie de choléra de la fin du 19e, elle a fait 19 000 morts. Ça, c'est une épidémie. Je ne parle même pas de la grippe espagnole, bon, de la fin de la guerre. Bon, je veux dire par là qu'on regarde tout avec une loupe, et qui est une loupe anxiogène. Bon, ça c'est la première chose qui m'inquiète, si ça continue, parce que quasiment, ça va nous amener à une sorte de soupe générale, de confusion, d'angoisse dominante, et on finira on finirait, parce que j'ai quand même de l'espoir, par vivre comme un funambule sur un fil, avec un peu en dessous la catastrophe à ma gauche, la catastrophe à ma droite, et sans comprendre que la mort fait partie de la vie, que la vieillesse n'est pas une maladie, que ça ne sert à rien d'accumuler jour au jour pour vivre le plus vieux possible grâce au fameux progrès de la médecine. Bon, c'est ces progrès que je ne les nie pas, je les approuve. Mais enfin, quand même, ça nous mène à ces aberrations de considérer la mort d'une très très vieille personne, 90, 95, comme un échec de la médecine. On est quand même dans le délire, si vous voulez. Donc moi, ce qui est dominant pour moi, c'est ça. C'est ce climat anxiogène, cette peur de tout, cette panique devant la moindre des choses, en encore augmenté par le fait que nous avons des informations qui nous arrivent de partout et qui nous font vivre dans un monde quasiment qui semble à l'agonie, ce qui bien entendu est faux. Il n'y a pas plus de crimes aujourd'hui qu'hier, il n'y a pas plus de guerres, même moins d'ailleurs, qu'aujourd'hui qu'hier, simplement on est au courant. On est au courant et on a l'impression que ça se passe là tout de suite et qu'on est concerné. Bon, ça c'est le premier point. Pour moi, c'est ce qui domine. Hein. Cette anxiété cette peur même, qui, à mon sens, n'est pas justifiée. Bon. Alors, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'on peut croire dans l'avenir? Je dirais à la limite, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. C'est-à-dire, l'avenir, il faudra bien y passer. Donc on en ait peur ou pas, qu'il soit ce qu'il est ou ce qu'on voudrait pas, de toute façon on n'a pas le choix. Et ce qui me donne confiance, je dirais que c'est l'humain, c'est l'être humain, dans ce qu'il a de placide, de plastique, de banal. Vous savez, l'être humain, c'est un vieux briscard qui en a vu des tas et des tas depuis 100 000 ans pour les Homo sapiens et quelques millions d'années depuis pour notre lignée. Donc, en réalité, ce qui se passe actuellement, ou ce qu'on croit qu'il se passe, ça n'est rien qu'une ride sur l'eau. Et je crois réellement que... le problème n'est pas de savoir si l'avenir sera joyeux, triste, mortel, pas mortel. Le problème est de savoir s'il sera. Et ça, je pense effectivement qu'il sera. Je doute qu'il ressemble à nos rêves, et je doute qu'il ressemble à nos cauchemars aussi. Au fond, c'est une durée, tranquillement, entre le passé, le présent, l'avenir, et puis ça continue qu'à un quart. Attention, je ne dis pas qu'il n'y ait pas des problèmes graves, hein. Je ne suis pas climato-sceptique, je sais qu'il y a un problème de diversité d'espèces, mais je ne pense pas que ça soit en jetant la panique dans les gens, demain c'est la catastrophe, qu'on arrivera à faire quelque chose. La prise de conscience, je dirais qu'elle vient... Il y a un vieux mot que j'aime bien et qu'on employait dans certains milieux religieux, c'est pas un mot d'ailleurs, c'est une locution, qu'il faut faire son devoir de s'asseoir, c'est-à-dire prendre le temps de prendre le temps. Voilà, Mitterrand disait donner du temps au temps, et je suis assez d'accord. Faire un devoir de s'asseoir, se dire qu'on en a vu d'autres, et des bien pires, hein. Que ce sera peut-être pas drôle, que ce sera peut-être moins terrible qu'on ne croit, mais encore une fois, que ce sera de la vie quand tu... C'est ça qui est important. C'est que l'humain va tranquillement continuer, avec ou sans dégâts d'ailleurs, et c'est ça qui me voir l'avenir avec confiance. Voilà, mais sans trop d'utopie quand même, hein. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment que, par ce devoir de s'asseoir, il faut quand même que l'être humain fasse la départition entre l'information, la communication et puis le réel vécu par les gens tous les jours avec leur placidité, leur banalité, leur bêtise aussi, ou leur intelligence, leur sens pratique. Bon, tout ça... Il n'y a pas besoin de hiérarchiser en réalité. Restons des artisans de la vie et pas des industriels de la vie. Voilà, c'est à peu près ce que je pense.
Merci beaucoup François de ce regard et on retiendra en particulier ce devoir de s'asseoir. Merci.
Oui, je crois. Au revoir.
Au revoir. Dernier regard, celui de Paul Charby. Paul est un médecin qui a une très très longue expérience. Il est aussi le créateur et le président de la remarquable association Art, Science, Pensée à Montsartou, qui cette année va fêter son 24e colloque les 11, 12, 13 et 14 septembre sur le thème de la complexité. Bonsoir Paul.
Bonsoir Michel.
Alors Paul, à la fois comme médecin et comme personne qui a une expérience tout à fait unique dans les arts, dans la culture par rapport au nombre incroyable de relations que vous avez, Comment vous percevez le futur qui s'en vient parmi nous ?
Le futur qui arrive, c'est quelque chose qui m'a interpellé depuis déjà de nombreuses années. Je sentais venir les transformations, mais n'étant pas un spécialiste de l'informatique, du cerveau, des mathématiques, je le sentais. C'est-à-dire, je sentais venir l'être humain bionique. Je sentais venir avec l'informatique, je savais que le cerveau allait être un jour relié à cette informatique pour fabriquer, si vous voulez, un être humain aussi numérique. Alors tout ça, je l'ai senti. Et à côté de ça, j'ai vécu par exemple l'histoire du cancer depuis 50 ans que je suis installé. Et le cancer m'apparaissait comme presque un signifiant. Comme disait Kayat au colloque il y a quelques années, le cancer c'est le désir d'éternité de la cellule qui ne veut pas mourir sur ordre génétique. Et j'avais l'impression que d'un côté la technologie nous poussait, le numérique nous poussait, et d'un autre côté, comme pour nous rappeler que nous étions des mortels et que en plus de ça nous n'avons pas les explications de toutes ces choses. C'est très complexe, la complexité là est liée au niveau des diagnostics, au niveau de la physiologie. Donc si vous voulez, je reste spectateur de ce qui se passe, en sachant que ce monde va changer. Je n'ai pas de jugement de valeur, j'assiste à ce monde qui arrive. Est-il meilleur ou moins bon, etc. Je n'ai pas d'avis, mais je suis spectateur de ce qui se passe. Comme je l'ai été toute ma vie, je suis émerveillé des changements, de la connaissance qui n'est qu'une connaissance approximative, puisque c'est toujours autre chose qu'on découvre. Et donc le thème de mon colloque l'année prochaine, qui est la complexité, peut résumer un petit peu tout mon parcours et le fait d'avoir été un voyeur de la vie.
Paul, face à ce thème de la complexité dont vous venez de dire vous-même qu'il caractérise bien votre regard sur le monde, qu'est-ce que vous conseilleriez à des personnes qui auraient envie de mettre l'accent sur ce qui leur manque pour avancer dans ce futur ?
Moi, je pense que, si vous voulez, je crois qu'il faut regarder ce monde non pas en le jugeant, parce qu'il nous échappe. Je pense que tout ce qui arrive, je ne dirais pas que c'est programmé, mais on a l'impression que c'est inévitable. Les choses s'enchaînent, comme mathématicien dirait peut-être un algorithme, je ne sais pas. Hein, voilà. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut être curieux. Il faut regarder le monde tel qu'il est, et non pas en se disant c'est mieux avant, ça sera mieux, etc. Il faut être humble, il faut aussi éviter d'avoir des certitudes, parce que la certitude, c'est comme la simplicité, ça vous enferme. Il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de simplicité. Je pense, après 50 ans de médecine, je suis toujours médecin, je peux dire que je n'ai pas trouvé qu'il y avait une vérité quelque part. Il y a des approches des choses, il y a la connaissance qui augmente, il y a le regard que l'on porte qui est important, mais honnêtement, je n'ai rien. Dans 50 ans de médecine, je n'ai aucune certitude.
Alors Paul, je m'adresse aux médecins. D'où vient cette extraordinaire jeunesse, émerveillement que vous avez gardé sur le monde ?
Parce que tous les jours, je suis attentif, parce que c'est jamais fini, parce que j'ai jamais de certitude. Je me dis toujours et à tout moment, tout le monde peut, d'un mot, d'un regard, d'une explication, me donner, si vous voulez, une solution ponctuelle de quelque chose que peut-être je n'avais pas pensé, à laquelle je n'avais pas pensé.
Merci Paul. Vous clôturez remarquablement ces quatre regards ce soir sur le futur en nous rappelant que pas de certitude, pas de jugement, de l'émerveillement et tout simplement d'avancer. Merci Paul.
Merci Michel.
Voilà, cette émission se termine. Nous avons eu quatre regards ce soir complémentaires aux autres que nous avions eus dans la première émission. Une note de synthèse sur le site dont je vous ai parlé tout à l'heure fera en sorte que vous aurez toutes les références, tous les sites, toutes les références de documentation. Voilà, plusieurs regards, pas de jugement, voilà ce futur. Regardons-le, je pense que Paul a bien résumé ce que nous a dit avant Virginie, François, François Rodier, François Lupu et Virginie Remette, parce que tous ces regards convergent finalement sur la disponibilité de ne pas avoir de jugement, d'avancer, d'agir, de vivre et de vivre pleinement. Alors nous nous retrouverons deux fois au mois de mars, donc désormais au printemps. Le vendredi 28 mars, nous aurons une émission « Et si de l'amour, on ne savait rien ?» Nous reprenons ainsi un thème que nous avons eu il y a un an, mais cette fois c'est avec des lecteurs, avec des auditeurs, que nous allons faire cette émission en priorité et non pas avec des philosophes ou avec des experts. Et puis le lundi 31 mars, ça sera sur le thème de l'éducation tout au long de la vie, une esquisse d'un nouvel esprit scientifique qui s'en vient et qui peut-être prélude mieux à ce futur qui arrive parmi nous. Pour terminer cette émission, nous allons écouter un extrait de la musique du Château ambulant de Hayao Miyazaki, et c'est pour lui rendre hommage, en particulier pour son dernier film « Le vent se lève ». Il nous a quittés, « Le vent se lève ». Belle soirée et à bientôt le printemps.